Présenté par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. C'est Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin avec vous. Salut Gaétan.
Salut Jean-Pierre.
Alors ce soir, on a deux invités avec nous. C'est avec grand plaisir que nous accueillons Béchard Hudon, un duo illustre dans le domaine de l'art sonore et du mot multi d'ailleurs. Donc
c'est toi qui le dis, hein?
Alors Catherine et... Et bon Dieu, j'ai Simon.
Sabin.
Ouais. Sabin. Catherine et Sabin qui sont avec nous ce soir. On va se mettre dans l'ambiance tout de suite avant d'aller plus loin dans l'entrevue. Et on va écouter un petit extrait d'une pièce qui s'intitule « La chute des potentiels ».
On y va. C'est en plein ça.
Juste comme ça commençait à monter. Mais c'était quand même très fin, très, très subtil, ce qu'on a entendu. C'est tiré d'une installation, cette pièce. Catherine?
Oui. Sébastien Clich,
oui.
Commissaire pour le poste audio à Clark, à Montréal, nous avait demandé de faire un 20 minutes pour un poste audio... Je ne sais plus de l'année passée. Et on a décidé, en fait, de reprendre plusieurs fichiers audio de nos installations sonores pour créer le 20 minutes. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est qu'on a mélangé, au début, c'est une pièce de rumeur, une installation de 7 automates qu'on a faite en 2000, en fait, une de nos premières installations. Ouais. Et ensuite, on a enchaîné avec l'autre qui s'appelle « La chute des potentiels ». Et donc, on a recréé, à partir des enregistrements en temps réel, qu'on a pris des installations dans des espaces différents. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que chacune des installations, dépendamment de l'espace, ou même la même installation installée dans un espace ou dans un autre, c'est pas du tout la même résonance.
Ouais.
Donc, on a travaillé avec tous ces fichiers sons-là de nos installations pour créer uniquement des pièces audio. Ouais.
Donc, ce qu'on vient d'entendre, ça date de quoi? Une année à peu près? Deux ans?
Oui,
le
poste audio, oui, c'est ça.
Le poste audio, oui, à peu près.
Mais là, vous êtes ici parce que vous allez faire partie de l'édition actuelle, celle qui est déjà en cours du mois multi, mais la partie des installations. Vous serez donc ici avec une installation qui s'intitule « Les temps individuels ». C'est pas votre première fois au mois multi, ça fait, à ma connaissance, au moins trois ou quatre fois.
Ce sera la troisième.
Troisième, oui.
La troisième, oui.
Non, la quatrième.
C'est, il me semble que c'est la quatrième. Moi, il me semble que vous avez fait au bout du fil.
Il y a eu au bout du fil, il y a eu les cubes à sombre et babille, et il y a eu la circulation des fluides, c'est, effectivement. C'est ça, la quatrième.
Il me semble que c'est votre quatrième. Je vous avais vu, moi, il me semble, au moins trois fois. Là, je n'étais pas certain.
Deux fois dans le studio d'Avatar.
C'est ça. Moi, ça compte aussi.
Oui, tout à fait.
Donc, votre projet actuel, c'est les temps individuels. Il va être question de quoi dans ce projet-là? Parce qu'on ne l'a pas entendu encore, on ne l'a pas vu encore.
Il va être question du silence. En fait, tout le travail est basé sur le silence.
Mm-hmm.
Donc, c'est un... l'installation, c'est des haut-parleurs qui sont installés au sol, sur lesquels descendent des cloches de verre. Donc, on travaille sur l'étouffement des sons, sur la façon dont les sons... peuvent résonner et non quand il y a quelque chose par-dessus. Donc, notre travail, c'est des sons qui ont... en fait, il y a eu un texte sur le silence que Catherine avait fait, puis on a enregistré le texte, puis on a retiré les mots, puis on a gardé juste les entremots. Ça a été le début de notre travail sur le silence. Donc, entre ces mots-là, ben il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des respirations, des bruits de bouche, des intonations, des... Donc c'est ça qui a vraiment inspiré le travail de base. Donc suite à ça, on s'est intéressé au, par exemple, un accordéon qui joue pas, mais t'as quand même, quand tu l'ouvres, t'as un soufflet.
Un soufflet,
donc,
oui.
C'est de l'air, c'est du souffle. Donc après ça, on a fait toutes sortes de travail comme ça, de recherche par rapport à ce type de sonorité là, c'est-à-dire le vent, l'air, des choses comme ça.
Et pourquoi les temps individuels? Parce que c'est le silence de quelqu'un, d'une personne, ou on peut l'associer à...
Moi, je pense que c'est vraiment intéressant qu'un titre reste très ouvert.
Mm-hmm.
Un titre, une œuvre, le choix des matériaux, le choix de la mise en espace, est toujours une espèce d'exploration du monde et qui est liée à notre vision en tant que... qu'auteur, chercheur, explorateur, comme on voudra, et en tant qu'artiste. Et après, c'est donné à toute interprétation. Donc, de là à expliquer pourquoi les temps individuels, je dirais même que à partir du jour où on a décidé que ce serait le titre, il y a eu beaucoup de choses en amont. Mm-hmm. Ensuite, on pourrait donner une explication différente à chaque jour. Donc, c'est intéressant de... D'abord, le temps, le travail sur le temps, quand on travaille tout l'aspect du mouvement, le cinétique, c'est la quatrième dimension, le mouvement. Donc, déjà là, l'individuel, ben, dans tout le temps, il y a le temps, on retrouve une parcelle de moment qui appartient à quelqu'un. Ensuite, tout le reste est très, très vaste. Ça peut être, parce que quand on voit physiquement l'installation,
oui.
Il y a une multitude de choses. Donc, qu'est-ce que l'individualité dans cette multitude? Et en même temps, nous...
Est-ce que la cloche je comprenais qu'il y avait comme une cloche ou un objet
en fait.
Quelconque...
Il y a plusieurs cloches comme ça.
Qui descend sur un objet probablement qui fait du bruit. Est-ce que cette cloche-là vient comme amener le silence ou...
Non, il y a des haut-parleurs qui sont enchâssés dans des bocaux de verre. Donc... Mm-hmm. Oui, les temps individuels, ça traite du silence parce que c'est le point de départ de notre réflexion. Le son inclut toujours le silence. Mm-hmm. Puis le silence est toujours le silence de quelque chose.
Mm-hmm. Donc, c'est l'absence de son.
Voilà. Donc, c'est une espèce de boucle de récursivité, d'une certaine manière. Donc, les haut-parleurs sont enchâssés dans des bocaux de verre qui sont en soi une caisse de résonance, donc peut-être un corps.
Mm-hmm.
Les cloches sont un autre volume. Donc, ce sont des volumes. Un corps, c'est un volume. Le son, c'est un volume aussi. Le silence, c'est un autre volume.
Mm-hmm.
Et donc, c'est l'espace dans l'espace dans l'espace dans l'espace. C'est le temps dans le temps dans le temps. C'est tout ça qui s'enchaîne, qui se mélange et qui retourne sur lui-même. Mais donc, les cloches descendent sur les bocaux de verre où il y a le haut-parleur. Et on va de l'atténuation totale du son. Total, là, c'est faux. Presque total, parce que ça devient un chuchotement enfermé, parce que là, il y a le bocal dans le haut-parleur dans le bocal, puis la cloche sur le bocal.
C'est ça.
Gaëtan?
Ouais, c'est intéressant, Catherine, parce qu'on parle beaucoup de son jusqu'à maintenant, mais il reste que votre travail aussi un travail d'artiste visuel. Parce que on prend les pièces une à une, ça va, on comprend la mécanique de tout ça, mais il reste que là, il y a un ensemble d'objets sonores. Et dans tout votre parcours, ça a toujours été une caractéristique. Et j'y arrive avec ma question, au fond. Quel est le point de départ de vos travaux? J'imagine que ça varie, mais dans le cas des temps individuels, est-ce que il y a une vision de la chose visuelle d'abord, et ensuite, je dirais que la construction sonore vient par la suite, ou vice-versa? Comment ça se passe?
Il y a eu plusieurs phases de travail par rapport à ce projet-là. En fait, la première phase, c'est Catherine qui a vraiment initié ce projet-là. En fait, la première forme, en tout cas, c'était sur table. Donc, c'était sur table. Et puis.
Mais l'objet visuel, c'est la cloche à vide.
Oui, c'est la cloche à vide. Donc, l'idée de base est vraiment partie de cet étouffement-là qu'on peut créer à partir d'un corps vers un autre. Là.
En fait, le seul silence possible sur Terre serait la cloche à vide où on retire tout l'oxygène pour qu'il n'y a aucun
son qui voyage.
Mécanique qui puisse voyager. Et l'autre, c'est l'espace intersidéral. Et le troisième, ce serait la mort, mais à ce qu'on pense, parce que là.
Quand on l'expérimente, on peut pas en parler.
On n'est pas rendu là.
En fait, même, il y a eu plusieurs versions, parce que je crois que la deuxième version, le haut-parleur était toujours dans le vase. Hein. Le haut-parleur, pas le haut-parleur, mais la cloche ne bougeait pas. Donc, c'était vraiment un haut-parleur qui diffusait dans une cloche à verre, comme ça. C'est après, dans une autre étape. Ouais. Ça, c'est toujours un processus d'être dans l'échange, puis d'idées qu'à un moment donné, on voit quelque chose, puis que là, on se dit, on pourrait essayer ça, puis là...
On travaille à... Notre rapport à l'installation, à l'objet, au visuel, c'est toujours dans le processus. En fait, on se disait aujourd'hui dans l'autobus, je disais... Nos œuvres, en fait, ce sont des œuvres processuelles autant dans la conception, dans la réalisation, dans notre travail en atelier, qui est toujours sur une longue période, que quand elles sont terminées, puis qu'elles sont dans un lieu, dans un espace.
Elles continuent.
Parce qu'elles sont toujours en processus. Mm-hmm. C'est toujours un processus de transformation par l'aspect scénétique, ou par l'aspect sonore, ou par la résonance du lieu, et par les gens aussi qui vont être dans cet espace-là. Donc, c'est toujours, toujours, toujours en mouvement.
Puis, il y a l'autre phénomène aussi, celui on parle d'une cloche, mais il y en a plus qu'une. Il peut en avoir deux, il peut en avoir dix, il peut en avoir, je ne sais pas combien il va y en avoir.
Dans ce cas-là, dans cette installation-ci, il y en a dix.
Une dizaine, OK.
Ouais.
Et donc tout ça apporte une autre dimension au travail. La spatialisation de ça, le regroupement peut-être pour certaines, l'isolement d'autres. Mm-hmm. Je sais pas comment vous les avez disposés, on va le voir.
Vous allez voir.
C'est vrai, c'est pas fait, ça.
Parce que c'est vraiment à voir.
Oui, puis ça change à chaque fois, ça dépend des lieux.
Selon le lieu,
C'est à voir et à entendre.
On se laisse inspirer par le lieu. Ouais.
Puis c'est l'idée aussi de donner une seconde un second état aux objets. Parce qu'on travaille beaucoup, cette installation-ci, c'est sûr, que des objets... du quotidien, des objets qu'on connaît, qu'on retrouve un peu partout, et quels sont leurs potentiels visuels et sonores en dehors de leur utilité première que l'on connaît. Donc comment on les transforme, évidemment, et la manière dont on les choisit. Ben dans ce cas-ci, c'est exactement tout le rapport au volume, à la résonance des objets, leur potentialité sonore autant que visuelle, parce que là il y a toute la transparence aussi qui était très importante pour nous dans ce travail là
ce sont des cloches de verre.
Oui, tout est transparent, parce que il y a la résonance aussi visuelle. Et il y a aussi tout le rapport d'être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est être attentif. C'est pas seulement être à l'écoute de manière sonore, bien sûr, dans notre cas, ça l'est, mais aussi être à l'écoute de ce qui se passe, ouvrir des espaces d'attention dans un événement exploratoire qu'on propose. Donc, tout ça est très important. Mais il y a une chose aussi que, par rapport à cette installation-là, où Sabin, au début, elle est vraiment inspirée par la pièce 4 minutes 33 secondes de John Cage. C'est vraiment un des points de départ, sa pièce sur le silence.
Bien, on va y revenir tout de suite après la petite pause qu'on va faire. Gaétan, on enchaîne avec le réseau, avec Phil peut-être? Nous sommes toujours avec Catherine Béchard et Sabin Hubdon. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, un de vous deux?
C'est une pièce qui s'appelle, en fait, Réseau avec Phil. C'est une performance qu'on a fait ça, à la Sala Ossa.
Commissarié par Eric Mattson.
Donc, c'est une performance qu'on avait créée spécifiquement pour cet événement-là. C'est une soirée où il y avait...
Les fantômes des espaces publics.
Les fantômes des espaces publics, c'est ça. Puis, on avait créé ce dispositif-là parce qu'on avait déjà pensé de travailler avec un type de moteur, en fait, qu'on avait développé, puis qu'on avait fait un dispositif comme ça où tu avais 4 poteaux avec lesquels il y a des fils, donc d'où le titre Réseau avec fil, parce que pour nous, le réseau sans fil, c'était pas intéressant dans ce cas-ci. Puis, sur les fils, comme des poteaux électriques, on avait fait des petits moteurs qui se promenaient sur les fils, comme ça.
Le 20e d'Avatar, on l'a présenté. On l'a fait... c'est la même.
C'est vrai. Okay.
C'est celle-là, ouais.
C'est la pièce qui est sur le disque du 20e.
Oui.
C'est
ça.
Le projet du 20e.
Oui, okay. C'est ça. Avec les fils et les moteurs qui se promènent. Et on manipule en direct avec des espèces de boîtes de contrôle qu'on a créées pour manipuler la vitesse des moteurs.
Mais il y a aussi les gros cônes en papier avec des moteurs vibratoires dedans.
C'est
là,
ça,
aussi qu'on utilise dans cette performance. Fait que c'est un extrait de cette performance-là qu'on a entendu.
Tout à l'heure, avant de se laisser pour la pause, tu nous parlais dans le cadre
4 minutes 33 secondes de John Cage, oui.
Qui vous a influencé dans le projet précédent.
Oui, c'est une pièce importante pour nous et pour beaucoup de monde. C'est une pièce mythique, en fait, et qui, à notre avis, est au seuil de l'installation, en fait. C'est une pièce 4 minutes 33 secondes. En fait, c'est une pièce en 3 mouvements. 30 secondes, 2 minutes 40 et 1 minute 20. Et dans ces 3 mouvements-là, John Cage écrit que ça peut être joué par n'importe quel instrument et la durée peut être variée selon la personne qui va l'interpréter. Mais la première interprétation était par David Tudor et John Cage avait seulement mis l'espace, le lieu et les 3 mouvements. Donc c'était dans une chapelle à Maverick aux États-Unis, dans le bois, une chapelle en bois et dans une forêt. Et Tudor a décidé d'ouvrir le couvercle du clavier pour le premier mouvement, pour le début du premier mouvement, mm-hmm. et à la fin du premier mouvement, de le refermer. Et c'était tout. Les trois mouvements se sont passés identiques de cette manière-là. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans cette pièce-là, selon moi, selon nous, c'est que là, c'est tous les bruits environnant qu'on entend. Donc, son rapport au silence est tel... Parce que le tacette, ce que ça veut dire, c'est que l'instrumentiste doit taire son instrument mm-hmm. au moment où c'est écrit tacette. Mm-hmm. Alors, l'instrument se taisait, mais il y a plein de choses qui se passaient. Les oiseaux, les branches de bois, les dépliants des gens, puis les soupirs, puis les gens qui trouvaient ça insupportable, les chaises et tout ça. Et c'est l'origine de la pièce.
Ça, c'était ça l'œuvre.
Et dans les temps individuels aussi, quand les cloches sont en suspension mm-hmm. et que les sons font tacette d'une certaine manière, il y a plein de choses qui se passent aussi sonorement. Donc, c'est pas une traduction ou un hommage dans le sens qu'on répète la pièce, mm-hmm. mais elle est inspirée de tout ce rapport à l'espace, mm-hmm. donc du son qui est émis, du son qui s'arrête, mm-hmm. et de tout ce qui se passe autour quand le son est arrêté, les petits cliquetis des moteurs, mm-hmm. Le vrombissement d'une voiture qui va passer. Il y a plein de choses qui, tout d'un coup, font partie de l'événement sonore de la pièce par les espaces d'attention qu'on génère en arrêtant, en fait, les respirations de la pièce.
Oui, cette notion de silence-là, chez Cage, elle est aussi paradoxale au sens où c'est pas le silence de manière abstraite, mais le silence dans sa concrétude entre deux bruits et tout ce qui se passe fait partie de, matérialise en quelque sorte cette idée de silence. Et je vais enchaîner tout de même parce qu'on a parlé de la forme de vos œuvres et j'avais l'impression qu'on était passé de matériaux plus chauds à un matériel plus froid dans le développement de vos installations. Est-ce que j'ai raison? Parce que il me semble que vous avez beaucoup travaillé avec le bois, entre autres, les matières, comment je dirais, plus chaudes. Là.
Papier, la circulation des fluides, c'était des papiers peints en blanc, papier mâché.
Oui.
Effectivement, très chaud, très organique.
Oui. Puis le verre, c'est nouveau dans la production?
La circulation, la chute des potentiels aussi, ce sont des petits moteurs de cellulaires, de pagettes, de mm-hmm. tout, qui sont qui sont au bout de cannes à pêche, qui sont en forme de cercle, et les cannes à pêche sont animées, donc mécaniquement, et descendent sur un amas de verre qui sont par terre, et viennent résonner sur le verre.
Mm.
Donc, toute installation m'emmène à une autre. Hein, ouais. C'est toujours comme ça. Ouais. Un travail d'une installation à une autre, celle qui précède amène la prochaine et ainsi de suite. Mais on a commencé à travailler le verre à cause de la résonance du verre. Et dans la chute des potentiels, tous les morceaux de verre sont des vieux cendriers, des vieux vases à bonbons, à Paparman Rose ou des trucs comme ça. Très, très culturels. Mais aussi, chaque résonance, ce sont des morceaux de verre très texturés. Donc, on les a choisis, chacun d'eux, pour leur résonance et tout ça.
Dans ce cas-ci, je pense que la cloche à verre dans cette installation-là était nécessaire à notre propos. On avait le goût d'avoir cette représentation-là visuelle, je pense, de l'enchâssement d'une cloche, d'avoir cette image-là.
Ben, à partir du moment où on travaille avec l'image de la cloche à vide, c'est drôle, tiens, je prononce le mot image, mais notre travail fait image beaucoup. Quand tu parlais de visuel, effectivement, l'image, mm-hmm. c'est pas juste une impression sur un papier, hein. Tout est image. Hein.
Ben oui.
Tout ce qui nous entoure est image, c'est ce qu'on voit.
On est rempli d'images.
Oui, c'est ça. Et donc, l'image, la cloche à vide, je pense qu'elle a été très, très forte dans notre subconscient, dans notre mémoire, qu'on l'a reproduit d'une autre, à notre manière. Mais aussi, ici, c'est vraiment une question de volume, dans le volume, l'espace, dans l'espace. Donc, toutes ces cloches-là, et ce sont des choses très, très simples qu'on trouve autour de nous. Hein. C'est des pots pour mettre des spaghettis ou du riz ou n'importe quoi comme ça qu'on trouve dans les supermarchés.
Donc, c'est une diversité de formats.
Ils
sont pas tous pareils.
Puis les cloches, c'est des pots à fleurs, en fait, qu'on a retournés et que les gens ont l'impression que c'est des choses incroyablement recherchées. Et c'est juste des pots à fleurs qu'on a retournés et qu'on a... on a des matières un trou, pauvres. Puis oui, on a mis ça, une corde au bout.
Oui, c'est, ça. Ouais. C'est des matières pauvres. Hein?
Oui, mais reste... quand on travestit leur perception, ouais. on se fait tromper.
Ben oui, ça devient noble. Oui. Il y a toute une esthétique autour.
Ça devient, je dirais, magique. Noble, je ne sais pas, mais il y a une magie qui opère parce que là, tout d'un coup, ce n'est plus, on ne voit plus le pot de la même manière. On n'aurait jamais pensé que le pot pouvait devenir une cloche qui monte et qui descend et qui nous donne cet effet, cette image, autant visuelle que sonore.
Et tout ça va se passer donc au Mois Multi, dont le lancement pour la partie des
vernissages. Le vernissage,
c'est le 11, donc jeudi, vendredi prochain.
Ouais. Il y a plusieurs vernissages. Le nôtre est à 6 heures. Il y en a un à la. Non, je me trompe?
C'est pas non, si en fait, il y a le vernissage de ceux qui vont exposer dans Méduse, mais peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs.
On est dans Méduse.
Oui, on est dans Méduse. Oui.
Mais il y a quelques autres artistes aussi dans Méduse.
Oui, c'est ça. Mais il y a des vernissages ailleurs aussi, avant.
Oui, Gaëtan Opine du chef.
Je ne fais pas d'autres commentaires.
Ben écoutez, je vous souhaite un beau passage à Québec. C'est pas votre première fois, Mois Multi, donc non. Vous savez un peu dans quel genre d'univers vous allez
manifester. C'est toujours nouveau. À chaque fois qu'on installe une œuvre, c'est un travail, c'est toujours nouveau.
Oui, puis c'est dans la salle est jamais la même.
Oui, en plus, là, on est dans le studio d'essai. On n'a jamais travaillé dans cette salle-là. On est très contents.
Bon, ben c'est vrai, vous avez travaillé chez Avatar, par contre, quelques fois.
Oui, et dans la salle multi.
Dans la salle multi.
Puis là, c'est une nouvelle salle, donc c'est une nouvelle expérience. On est très contents.
Ben, Catherine Béchard, c'est bien évident. Merci beaucoup d'être passée par chez nous. Puis on se laisse sur quelle pièce, Gaëtan?
J'ai décidé de faire jouer La circulation des fluides, un extrait. Alors, moi, ça me rappelle de bons souvenirs.
Merci.
Merci d'être venu.
Merci d'être venu.
Ce fut un plaisir.
Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique contemporaine avec Sixstrom. Ces explorateurs de rythme et de son ont pour joyeuse mission de faire exploser les barrières musicales. Avec les percussions claviers de Lyon, 11 musiciens entourés d'une forêt d'instruments présenteront la création Batèche, inspirée par l'œuvre de Gaston Miron. Le 20 février, vivez la musique à son meilleur avec Sixstrom. Détails au palaismontcalm.ca.
Première Ovation vous invite à découvrir les talents émergents de Québec. Dans le cadre du Mois Multi, le Théâtre Rue d'Ingénierie propose le spectacle Entre, qui mêle danse contemporaine et scénographie interactive. Les mouvements et les trajectoires des corps, saisis en temps réel par des caméras, sont transposés en lumière et en son dans l'espace scénique. Entre, du 24 au 26 février, à la salle Multi du Complexe Méduse, dans une direction chorégraphique et une mise en scène de Philippe Lessard-Drolet. Les billets sont en pré-vente jusqu'au 24 février. Visitez premièreovation.com et mmrectoverso.org pour en apprendre plus.
Près de 1200 participants sont attendus à Québec du 14 au 18 février 2016 pour le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène en Amérique. D'abord réservé aux professionnels de la scène, les portes de la Bourse Rideau sont ouvertes au public pour certains spectacles, et ce, gratuitement. Au Cercle, à l'Impérial Belle, au Grand Théâtre de Québec, au Palais Montcalm et à la Chapelle du Musée de l'Amérique française. Découvrez ou redécouvrez en formule vitrine de 20 minutes ou plus Quartango, Gabriella, Théâtre Niveau Parking, Cas Public, Whiskey Legs, Yann Perrault, Dead Obies, Pascal Picard et plusieurs autres. Le public est invité à se présenter dès maintenant au guichet des salles de spectacle participantes pour demander leur billet gratuit. Les cinéastes ayant participé au laboratoire de création documentaire de Spira vous dévoilent leur court-métrage en avant-première. Le jeudi 18 février dès 19h à la Nef, 160 rue Saint-Joseph-Est, venez festoyer en compagnie des 9 réalisatrices de la relève de la région de Québec. Sarah-Christine Bourriane, Amélie Boutin, Noémie Brassard, Josiane Cloutier, Claire Dupont, Claudia Kenney-Bolduc, Annabelle Lavoie, Julie Pelletier et Stéphanie Vézina. Pour plus d'informations, spira.québec. Spira tient à remercier le Forum Jeunesse de la Capitale-Nationale, sans qui cette initiative n'aurait pu être possible. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Deuxième demi-heure de la croche-oreille. Gaétan Gosselin, Jean-Pierre Guay, toujours avec vous. Gaétan, tu voulais nous parler d'une artiste qui est curieusement, à peu près en même temps que tu veux nous en parler, elle est au Grand Théâtre bientôt,
ouais,
je pense.
C'est un beau hasard parce qu'on se promettait de parler de Tania.
Depuis un bout de temps, oui.
Tania Tagaq, qui est une artiste inuite qui est née dans la Cambridge Bay, tout près de l'océan Arctique, dans le Grand Nord canadien. C'est une fille du Nunavut, on va dire ça comme ça, et qui va naître là-bas, mais va émigrer vers le sud, va plutôt passer sa jeunesse au Manitoba, et elle va redécouvrir le chant de gorge. À ce moment-là...
Parce qu'elle avait perdu dans sa communauté.
C'est ça, c'est que la religion catholique et les enseignants et les prêtres, les sœurs de l'époque interdisaient la langue autochtone parlée par les Inuits et le chant de gorge, en tout cas cette habitude culturelle, cette spécificité culturelle, elle n'était plus enseignée. Et je ne sais pas si on peut dire si elle était interdite, mais en tout cas, elle n'était pas valorisée.
Elle n'était pas au programme.
Voilà, alors cette Tania Tagaq, qui a des talents merveilleux pour la musique, va se réapproprier sa langue maternelle, se réapproprier le chant de gorge et va développer à la fois une musique, mais je dirais aussi une expérimentation sonore avec le chant de gorge qu'elle va mixer avec des cris en tout cas une simulation de cris d'animaux, des bandes préenregistrées, beatbox et une fougue corporelle qui semble-t-il est absolument magnifique.
J'ai vu des images sur le web de ses performances et elle est extrêmement énergique mais elle va au bout de ses limites d'après ce que je peux voir.
Tout à fait, et c'est ce qui fait qu'elle a été observée et reconnue par des grandes vedettes internationales. Bon, dans les commentaires de presse qu'on a autour d'elle, bon, elle a participé à des concerts avec le Quartet Chronos. Elle a participé à une bande son pour un film dans lequel il y avait aussi les voix de Björk. Mm-hmm. Elle a chanté avec le Winnipeg, l'orchestre symphonique de Winnipeg. Donc un parcours, je dirais, qui prend de l'ampleur. Elle a présenté son travail au Théâtre La Chapelle il y a quelques années et elle sera au Palais Montcalm tout prochainement. Et on se disait bon que ce serait vraiment bien de faire écouter cette voix et cette musique et ces sonorités qui font qu'on a un bel exemple de mélange, de fusion de l'art sonore, de la musique, de l'art audio et de tout ce qui environne les sonorités de la vie quotidienne, à la fois chez les premiers peuples comme dans la vie urbaine.
Mm-hmm. Donc c'est un croisement de différentes sources sonores, si je peux dire.
Ouais, c'est un travail de musicienne et c'est un travail aussi de conteuse, c'est un travail de performeuse sur scène qui mixe tous les atouts, je dirais, des expérimentations et musicales et sonores et électroniques.
Alors quoi, t'as des extraits à nous faire entendre?
Ouais, on va écouter une première pièce, puis on y reviendra.
Parfait.
Ah!
C'est impressionnant comme comme chant. C'est très d'abord des chants de gorge qui sont extrêmement graves, qui puis une voix élevée aussi. Les violons, c'est assez, mais je dirais pas déroutant là, mais c'est pas. J'imagine que les gens en grand théâtre vont être un petit peu étonnés d'entendre ce type de prestation là.
Au Palais Montcalm.
C'est au Palais Montcalm.
Au Palais Montcalm. Je pense que le public va être ravi. C'est un c'est un travail exceptionnel de la voix, des instruments. Et ce qui est, c'est une anecdote, mais le chant de gorge, c'est une pratique qui se fait à deux chanteurs, et il y a dans tout ce cérémonial quelque chose qui ressemble à une lutte, à un combat, mm-hmm. qui se fait de manière amicale, et Tania Tagac joue les deux rôles dans le travail sonore, dans le travail musical, et c'est assez impressionnant, fait que c'est un beau moment.
Oui, parce que les chants de gorge, en tout cas l'image qu'on a, ils sont deux personnes vraiment près l'une de l'autre, face à face, vraiment près l'une de l'autre, et elles se répondent. Et on sentait pas nécessairement cette dynamique-là dans sa pièce, mais c'est elle qui faisait quand même les deux voix.
Ouais, et pour ceux que ça intéresse, on a entendu une pièce qui s'intitule Toulougac, qui a été produite sur un album, qui est présentée sur un album publié en 2014 qui s'appelle Animisme, et on reconnaît là tout ce passage vocal et de lien avec les traditions, la tradition orale, oui. Et puis les chansons primitives. Mm.
Ben dans un autre ordre d'idées, Gaétan, on va aller quelqu'un qui va être dans le cadre du mois multi qu'on va avoir à Québec, chez Avatar, Alexandre Saint-Onge, qui est un artiste qu'on voit souvent à Québec, qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir aussi à la Croche-Oreille il y a quelques années, et qui va faire une performance de 3 heures sonore chez Avatar, qui va s'intituler Semblance. Et en fait, il va prendre le relais. C'est un cadavre exquis. Là, il me manque un des noms. Il y a Thomas Bégin là-dedans, qui était juste avant lui chez Avatar, et une autre personne qui était avant Thomas. Et chacun et la première personne dont je me rappelle pas qui est-ce que c'était, avait laissé un objet que Thomas a repris. Et puis Thomas l'a laissé à Alexandre, et Alexandre est parti de ça, et tout ça a donné cette pièce qu'on va entendre. Qu'on va entendre lors du mois multi. Mais ce soir, je ne peux pas vous la présenter parce qu'elle n'est pas encore prête. Mais je vous présente une pièce tirée d'un disque qu'il a fait avec Sylvie Chénard, c'est Sylvie Chénard qui a créé un disque et qui est allé chercher un certain nombre de collaborateurs, dont Martin Pétrault, entre autres. Et avec Alexandre, elle a créé une sorte de deux pièces. Celle que je vous présente s'appelle Plancton. Et sur cette pièce-là, Alexandre joue de la bouche électronique. Alors, c'est un instrument qui est un instrument, j'imagine, inventé, créé pour l'occasion. Alors, voici donc, tiré de ce disque qui s'intitule Océan, la pièce qui s'intitule Plancton. Thank you. Alors, c'était donc Alexandre Saint-Onge, une pièce qui s'intitulait Plancton. On va enchaîner, tiens, avec deux autres artistes, Marie-Soleil Bélanger et Normand Guilbeault. Normand Guilbeault, qu'on connaît bien, qui est bourgeois, qui joue la contrebasse. Et quant à Marie-Soleil Bélanger, elle est violoniste. Tous deux ont commis un disque qui s'intitule Les Salines. J'ai choisi sur cette pièce quelque chose qui est un petit peu hors d'ordre ces temps-ci, mais qui nous va nous rappeler un petit peu l'été. Alors, voici Comme deux gouttes d'eau, qui est tiré d'une pièce de Marie-Soleil Bélanger et Normand Guilbeault. Fini carré. Alors, écoutez, on va se laisser sur une dernière pièce et on vous dit ben, bientôt, on va se voir, j'espère qu'on va se voir. En tout cas, tout le monde, je vous invite à venir faire un tour au Mois Multi, cet événement qui a lieu à toutes les années au mois de février. C'est facile à s'en rappeler. À chaque année au mois de février, c'est le Mois Multi et c'est dès cette semaine, à partir de la fin de la semaine, toute une série d'installations vont être inaugurées dès ce vendredi. Donc, vous pourrez visiter. Ça, c'est gratuit au Mois Multi. Et il y a encore, je pense, quelques représentations aussi d'autres choses. Allez sur le moismulti.org. Vous allez voir tout ce qui se passe. Et on vous laisse donc sur une pièce de deux champions, René Lucier et Martin Tétrault. C'est un disque qui s'intitulait Dur, Noyau Dur, et dont tous les titres étaient en Ur. Et nous avons choisi Azure. Et on se laisse là-dessus. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.